les mots des religions. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Bonjour Sylvie Barnet.
Bonjour Hélène Renard.
Aujourd'hui, nous fêtons un saint qu'on a toujours fêté le 29 septembre, Saint Michel. D'où vient son nom? Que veut-il dire?
Alors Saint Michel, en hébreu, cela signifie littéralement « celui qui est comme Dieu ». Et dans la Bible, il fait son apparition, si on peut dire, dans le livre de Daniel, qui voit en lui le premier prince de l'armée des anges.
Donc il est tout de même dans les anges, mais plutôt dans les archanges, non?
Dans l'Apocalypse, on le dénomme également comme un ange. Alors je ne résiste pas au plaisir de vous lire le texte
de l'Apocalypse.
C'est ce fameux texte qui raconte comment Saint-Michel va combattre le dragon.
Apocalypse 12.
Alors il y eut une bataille dans le ciel, Michel et ses anges combattirent le dragon. Et le dragon riposta avec ses anges, mais ils eurent le dessous et furent chassés du ciel. Voilà, là, l'origine des six jolies images où on voit Saint-Michel chasser le dragon, un dragon extraordinaire avec des volutes et des replis et du feu et des naseaux qui fulminent.
Alors pardonnez ma naïveté, mais moi je croyais que celui qui chassait le dragon et qui le tuait, c'était Saint-Georges.
Alors en fait, il y a de nombreux saints qui sont porteurs de l'attribut de combattre le dragon, en particulier Saint-Georges. Mais Saint-Georges ne combat le dragon en Occident, dans les textes, seulement à partir du XIe siècle.
Alors que Saint-Michel, c'est plus ancien.
Saint-Michel, c'est d'origine biblique et Saint-Michel va être présenté par la tradition comme un archange, c'est-à-dire comme un ange qui est plus élevé dans la hiérarchie des anges qui se met en place au VIe siècle. C'est une manière de décrire comment le ciel est ordonné et c'est sans doute un prêtre syrien auquel on donne le nom de pseudo-Denis l'Aréopagite qui classe les anges en 9 ordres ou 9 chœurs parmi lesquels les archanges, où figure Saint-Michel aux côtés de Gabriel.
Gabriel et Raphaël.
Et Raphaël.
Et on part, Gabriel. Parce que dans la tradition orthodoxe, justement, on les appelle les saints incorporels, puisque les anges n'ont pas de corps, mais ils sont tout de même saints. Et tous les trois, Michel, Gabriel et Raphaël. Est-ce qu'on les mentionne aussi dans l'islam, par exemple?
Oui, dans l'islam, il y a plusieurs versets, plusieurs sourates du Coran qui mentionnent Saint-Michel comme un ange.
Saint-Michel, en tout cas. Et alors, quand se développe le culte de Saint-Michel?
Alors, le culte de Saint-Michel va se développer en Orient à partir du IVe siècle. Et c'est surtout à partir du VIe siècle que son culte va prendre un essor, mais absolument fulgurant en Italie. Et c'est là où on voit apparaître des légendes et des sanctuaires. Entre le 6e et le 9e siècle, pour vous donner une idée, il y a plus de 800 sanctuaires qui lui sont dédiés et Saint-Michel devient le patron de nombreuses petites églises, de nombreuses chapelles hautes. Et en Italie, bien sûr, la plus connue, la plus célèbre, c'est le Monte Sant'Angelo, Monte Gargano, dans les Pouilles, donc dans le sud de l'Italie.
Parce que Michel y est apparu, c'est une apparition au
Alors,
départ.
Au départ, il y a une légende qui est sans doute écrite au milieu du 5e siècle qui raconte comment Saint-Michel apparaît à un homme, perce un trou dans un rocher pour y faire couler de l'eau. Alors, on songe évidemment à Moïse.
Hein. Ça nous évoque
Saint-Michel
quelque
est présenté
chose, oui.
comme un nouveau Moïse puisqu'il va faire jaillir de l'eau du rocher en le frappant avec son bâton, ainsi qu'il est raconté dans l'Exode. Et en France, eh bien, le culte va énormément se développer à partir de l'époque carolingienne, à partir de Charles Charlemagne, donc à partir du 9e siècle. Et on retrouve ce type de légende.
On le retrouve. Alors, il y a un récit qui raconte cette apparition, cette révélation de Saint-Michel.
Alors là aussi, je ne résiste pas au plaisir de vous la mentionner, parce que les prédicateurs dominicains qui sillonnent toute l'Italie et toute la France racontent dans leurs homélies un certain nombre de légendes. Et c'est le cas du célèbre Jacques de Voragine dans sa Legenda Aurea, dans sa Légende Dorée. Et voilà ce qu'il dit. Il y avait là deux énormes pierres qu'aucune force humaine n'aurait pu faire bouger. Michel apparut alors à un homme, lui ordonna d'aller là-bas et de prendre ces pierres. Il y alla et les déplaça comme si elles ne pesaient rien du tout. Et comme il y avait pénurie d'eau, sur le conseil de l'ange, on perça un trou dans le rocher. À ce qu'on dit, il s'en échappa aussitôt suffisamment d'eau pour alimenter l'endroit encore aujourd'hui.
Merveilleuse légende dorée de Jacques de Voragine, donc 1280, 13e siècle. Fin du 13e siècle. Et alors, après, donc, le Mont-Saint-Michel, quel rapport? Alors, pourquoi, justement, porte-t-il ce nom?
Eh bien, le Mont-Saint-Michel va reprendre ce faisceau légendaire et va raconter comment l'archange a fait son apparition au mont qui porte son nom, puisqu'il va devenir le Mont-Saint-Michel. On va y construire une église et un culte va se mettre en place. Un pèlerinage va se mettre en place. Et on raconte qu'au Mont-Saint-Michel, alors il y a une petite concurrence entre Saint-Michel et la Vierge, parce qu'on raconte qu'il y a une pèlerine qui est allée en pèlerinage au Mont-Saint-Michel et qui est tombée dans l'eau. Mais ce n'est pas l'archange qui vient la sauver, c'est la Vierge Marie qui étend son manteau autour de la jeune femme pour qu'elle y accouche en un endroit très sûr. Et elle va donner naissance à un fils, un petit peu à l'image de la Vierge, pour la protéger. Donc on sent bien qu'entre Saint-Michel et la Vierge Marie, il y a concurrence.
Donc, au niveau de la protection. On est encore un peu Saint-Michel, et puis tout d'un coup, vers le début du 15e, on va plutôt considérer la Vierge comme protectrice du royaume français.
Oui, parce que, alors en fait, les rois de France, au début du 15e siècle, jusqu'à Louis XI, vont prendre Saint-Michel comme protecteur du royaume. C'est vraiment lui le protecteur. Dans les textes, il est présenté comme l'archange protecteur de la France. Et puis, au milieu du 15e siècle, il y a un basculement qui s'opère, et c'est la figure de Marie qui devient la protectrice du royaume de France, et ce, jusqu'à l'époque moderne. Par contre, Saint-Michel va continuer à protéger le royaume, parce que, notamment, il est invoqué comme figure protectrice des catholiques au moment de la Réforme et au moment où la bataille fait rage entre protestants et catholiques du milieu du XVIe siècle jusqu'à la fin du XVIe siècle.
C'est pour cela qu'on lui donne souvent les allures d'un soldat. Alors, il est avec sa cuirasse, sa lance...
C'est un saint militaire par définition, et donc il va devenir le patron tout naturellement de ceux qui tiennent une lance, par exemple les soldats, par exemple les guerriers, mais aussi à l'époque tout à fait récente, le patron des escrimeurs. Et oui, c'est Saint-Michel qui est leur saint patron.
On en apprend. Et est-ce qu'il sert au moment de la mort, par exemple, Saint-Michel ?
Alors, il y a toute une tradition de Saint-Michel psychopompe, c'est-à-dire porteur, accompagnateur de l'âme pour l'emmener au purgatoire. Et on voit Saint-Michel accompagner les âmes, en lien avec tout un légendaire qui se développe en Occident à partir du XIIe siècle et qui va présenter Saint-Michel comme celui qui tient la balance au jugement dernier et qui pèse les âmes. Et donc, sur les représentations iconographiques de la fin du Moyen-Âge, on voit Saint-Michel soit tenir une lance et combattre le dragon, soit tenir une balance et peser les âmes.
Donc, il est aussi le patron de tous ceux qui utilisent une balance.
Eh bien, par définition, le voilà patron des épiciers, des boulangers, des fromagers, des mesureurs de grains et des pharmaciens.
Ça fait pas mal de monde. Merci Sylvie Barnet pour cette explication concernant Saint-Michel. Et puis, bonne fête à tous ceux qui se prénomment Michel.
Merci.